Philippe?
35 nouveaux cas pour les hospitalisations. Patrick, tu y as fait allusion il y a un moment. Je pense que c'est le chiffre du jour, la donnée importante, parce que depuis quelques semaines maintenant, on entend les gens dire « Oui, mais pourquoi reconfiner si le nombre de morts reste quand même relativement modeste là, et que le nombre d'hospitalisations semble aussi en contrôle? Oui. » Pour la première fois aujourd'hui, là, on a un bond important de 35 hospitalisations. Alors, ça va être assez important de suivre ça au cours des prochains jours.
OK, on va tout de suite commencer les entrevues. On a un programme chargé. Juste avant de passer à notre première entrevue avec Patrick Derry, notre analyste en politique publique. Philippe, tu as isolé quelques extraits de la conférence de presse du trio santé aujourd'hui. Et ce qui retient l'attention, c'est que le premier ministre a lancé un appel aux jeunes. Et surtout, c'est un peu passé inaperçu là, dans la couverture médiatique. Il y a vraiment, le gouvernement est inquiet et on parle beaucoup de la deuxième vague, mais le gouvernement parle de troisième et de quatrième vague à venir.
Moi, c'est vraiment ça, Patrick, qui m'a le plus étonné aujourd'hui, c'est qu'il a abordé ces sujets-là aussi directement. C'est peu après avoir fait son appel aux jeunes, bien, il nous donne un peu une fenêtre sur comment les choses pourraient se produire au cours des prochaines semaines.
Tant qu'on n'aura pas un vaccin, il y a des possibilités qu'il y ait deux vagues, trois vagues, quatre vagues. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, bien, on ouvre un peu. Puis là, ben, si le nombre de cas augmente trop rapidement, on referme un peu.
Tu sais, c'est la première fois là, qui nous donne un peu une appréciation de ce que pourrait, à quoi pourrait ressembler l'avenir. Et c'est pas une perspective très réjouissante. Là.
Et on fait grand cas, Philippe, des rassemblements de jeunes, tu sais, en bordure des écoles secondaires. Ouais. À l'intérieur, ils sont peut-être masqués dans les espaces communs, mais quand ils sont dehors, ben là, c'est une autre paire de manches. Ils sont tous ensemble. On a tous déjà passé devant une école secondaire et ça se déplace en petits troupeaux. Hein? Il n'y a pas beaucoup de distance là-dedans et le PM a fait appel à eux.
Ouais.
Ce qui est important de vous dire à tout le monde, les jeunes, c'est qu'une bonne partie de la solution est entre vos mains puis qu'il y a des vies qui sont en danger. Pis je comprends que tous les jeunes ne sont pas à la télévision ou en train d'écouter actuellement, mais je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, parler à vos amis, aux autres jeunes.
C'est le gros défi, là.
C'est le gros défi
de convaincre les jeunes. Je pense que les jeunes sont conscients du sérieux de la situation, mais de leur responsabilité collective dans cette pandémie. Ça, c'est probablement plus difficile là, à saisir pour un certain nombre d'entre eux.
Et Philippe, on va en parler tantôt dans la chronique de Catherine, mais le milieu culturel est consterné parce qu'on recommençait là, à pouvoir faire des prestations en public, par exemple théâtre, par exemple des spectacles de musique. Et là, bang, ça a été coupé hier avec l'annonce qu'on passait au rouge dans la région de Montréal. Et le PM a répondu à un chroniqueur sans le nommer.
Oui, tout à fait. Il y a Marc Cassivi dans la presse ce matin qui disait justement qu'il comprenait mal pourquoi on pouvait finalement, grosso modo, aller faire aller faire du magasinage un peu partout puis qu'on pouvait pas aller voir une pièce de théâtre. Alors, il a répondu à ça.
J'entends, entre autres, des gens dire... Pourquoi vous fermez les théâtres, mais pas les commerces? C'est pas parce que j'aime pas le théâtre, là, j'y vais au moins une fois par mois. C'est parce que dans les commerces, le critère qui est beaucoup utilisé, c'est le contact prolongé. Prolongé étant défini comme étant 10 minutes et plus. Donc, c'est sûr que dans un commerce, il y a moins de chances qu'on soit en contact plus que 10 minutes avec une autre personne. Par contre, dans une salle de théâtre, si on est 250, même si on a eu des masques jusqu'à temps qu'on s'assoit, il y a quand même un risque après une heure ou deux.
Il y a un risque, mais il n'y a pas de données.
Non, c'est ça.
Ça a recommencé et il semble que ce ne soit pas des lieux où il y a eu des éclosions. En tout cas, pas de façon importante.
Non. Et le gouvernement, rappelle-toi, Patrick, nous disait il n'y a encore pas si longtemps, bien écoutez, là, dans une salle de spectacle, si tout le monde regarde dans la même direction, les gens n'échangent pas entre eux, puis ils ont un masque, c'est correct. Mais là, c'est plus correct. Puis à l'époque, c'était les gyms qui ont été les derniers à rouvrir quand on a déconfiné, parmi les derniers. Mais là, on ne les ferme pas, puis on ferme d'autres choses. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la cohérence, il y a un certain nombre de problèmes.
OK. Et justement, le chroniqueur culturel du journal La Presse, Marc Cassivi, Catherine, va être avec nous dans quelques minutes.
À 16h35, et justement, on va parler de cette incompréhension où on aurait peut-être pu tout simplement demander aux gens de garder leur masque dans une salle de cinéma.
OK, parfait. 16h50, vous dire aussi qu'on va avoir quelqu'un des producteurs de patates parce que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité les manifestants anti-masques à aller manifester, non pas dans le parc La Fontaine demain, mercredi, mais d'aller dans un champ de patates, lancer ça comme ça. On va parler à quelqu'un qui produit des patates, on va voir ce qu'il en pense. Et juste vous dire aussi que mes échos pour ce qui est de la police de Montréal, c'est que les policiers, policières sur le terrain qui vont être chargés d'appliquer le règlement anti-masque le règlement des masques dans les manifs anti-masques, ils s'arrachent déjà les cheveux. On se demande comment on va faire ça. Et écoutez, les policiers, policières, si vous voulez m'en parler, vous savez où me trouver, évidemment. Donc, vous pouvez me chuchoter dans l'oreille comme vous le faites souvent. 15h12, on va parler avec Patrick Derry, notre analyste en politique publique. Salut, Patrick.
Salut, monsieur.
D'abord, ce qu'on retient du point de presse d'aujourd'hui, là, je pense, c'est les hospitalisations sont en hausse. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est une aberration statistique ou ça veut vraiment dire qu'il y a plus de monde qui est maintenant hospitalisé?
Il y a vraiment plus de monde qui est hospitalisé, mais il y a une petite aberration statistique aussi. On a eu 35 hospitalisations de plus que la veille. Mais les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est ceux de lundi, donc. Et moi, ce que je me demande, parce qu'en fin de semaine, les hospitalisations baissaient alors qu'elles avaient monté beaucoup la semaine passée, c'est peut-être parce que certains hôpitaux ne transmettent pas leurs données la fin de semaine. Là, on sait que c'est le cas en Ontario, puis les chiffres là-bas, la fin de semaine, sont sous-évalués. Mmh. Ceci dit, quand on regarde ça depuis deux semaines, là, depuis une semaine, on a environ 80 hospitalisations de plus. Fait que donc, ça a doublé en deux semaines. On est passé d'autour de 125 à 250 hospitalisations. Et aux soins intensifs, ça a plus que triplé. Donc, c'est passé de 12 à 41. C'est pas des chiffres qui sont énormes, mais ça va nettement pas dans la bonne direction, puis ça monte assez vite.
OK. L'autre nouvelle qui est sortie comme ça, là, au hasard d'une question, là, c'était pas dans les lignes que le gouvernement a lancées, c'est que la fameuse application de traçage, de contact du gouvernement fédéral, là, qui est disponible, semble-t-il, depuis 9 semaines, ben après s'être fait tirer l'oreille, là, le gouvernement du Québec va, semble-t-il, l'adopter.
Oui, le ministre Dubé en avait donné un indice il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, on rappelle, c'est une app qui garde les contacts via Bluetooth, qui transmet aucune donnée et qui fait simplement envoyer un signal en cas de résultat positif à nos contacts quand on entre un code fourni par la santé publique. Puis après ça, les données s'autodétruisent. Le premier ministre répétait encore la vraie raison. Là, il avait dit qu'il voulait avant tout une app qui était développée au Québec en raison de sa stratégie d'achat local, par exemple, le panier bleu. C'était candide de sa part, mais assez étonnant. D'abord, on aurait repayé une seconde fois pour quelque chose qui était déjà payé et disponible. Deux, c'est en temps de pandémie, et un des endroits où le Québec a le plus de misère, c'est le traçage des contacts. Donc, on s'est privé pendant deux mois d'un moyen d'aider à limiter la pandémie, de sauver des hospitalisations, possiblement des décès. Pourquoi? Pour donner quelques centaines de milliers de dollars à une firme d'ici. Moi, en termes de priorité, là, je trouve ça assez malheureux. Là, on a perdu deux mois.
Mais Patrick, je t'arrête juste une seconde, OK? Parce qu'il me semble avoir lu que les endroits où les applications de contact comme ça ont fonctionné, généralement, c'est dans des régimes assez, on va dire, autoritaires, OK? Dans les démocraties, il semble que la preuve n'est pas faite que ça fonctionne, que ce soit efficace.
Il y a deux choses. Un, on avait établi que ça prenait un seuil d'autour de 60% de téléchargement pour que ça soit efficace. Puis il y a d'autres modèles qui ont été faits après ça puis qui ont déterminé que ça pouvait être aussi bas que 10 à 15%. Ça faisait une différence. Évidemment, c'est mieux quand c'est plus. Ceci dit, c'est vrai que cet été, il n'y avait pas d'urgence. Le nombre de cas était bas puis c'était pas, disons, très, très populaire. Mais là, on a une exception qui est assez notable. Au Royaume-Uni, l'application vient d'être lancée. Il y a eu 10 millions de téléchargements en 48 heures. Donc, à peu près là, autour de 20 % de la population là, qui l'a téléchargé. Donc, ce que ça montre, là, c'est quand le sentiment d'urgence est là, les gens sont prêts à répondre. Puis ça, le gouvernement le sait déjà parce que dans ses propres consultations qu'il a menées, les trois quarts de la population se sont dit prêts à télécharger et prêts à recommander à leurs proches de les télécharger. Donc, l'argument de l'approbation du public, là, c'était un peu cousu de fil blanc.
OK, parle-moi de Dr Arruda. Il y a des gens qui commencent à remarquer que des fois, le bon Dr Arruda, là, il s'enfarge dans ses pinceaux. Ses messages sont pas très clairs. Comment tu trouves sa performance là, depuis quelques jours?
Boy. On en a parlé la semaine dernière, là, des pépins de communication, là, puis ce qui sortait de sa bouche, c'était pas toujours facile à suivre. Aujourd'hui, là, il s'enfargeait tellement dans ses explications que personnellement, moi, je trouvais ça souffrant de l'écouter. Il s'est fait poser une question à propos du masque. Bon, d'abord, il a dit qu'il fallait que ça soit démontré qu'il y a des grosses explosions dans les écoles. Ça donne encore l'impression qu'on va attendre que le feu soit pris très fort avant d'essayer de l'éteindre. Mais il y a une autre partie de la réponse. Je ne sais pas si on peut écouter l'enregistrement.
Écoutez, je comprends très bien. Porter un masque pendant 8 heures, c'est excessivement difficile. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, quand j'ai l'occasion, là, je vous parle, je ne l'ai pas, ça me fait du bien. Si j'aurais le masque dans le visage, ce serait difficile. Quand on va à nos bureaux, qu'on est seul, mais les enfants sont dans la classe tout le temps, donc porter le masque, c'est très difficile. Et le problème actuellement qu'on observe, ce sont les rassemblements des jeunes à l'extérieur du moment de la classe, quand ils sont avant de rentrer dans la classe, sur l'heure du midi, le soir. Et c'est là qu'il faut agir. C'est là que la transmission, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de masque. Et là, je pense que c'est très différent, à mon avis. Le risque est beaucoup plus grand là qu'au moment où ils sont dans la classe, à distance les uns des autres, d'une façon encadrée.
Pour toi, Patrick, c'est quoi le problème avec cette déclaration-là?
Il y en a trois. Le premier, j'ai envie de répondre à Dr Arruda, qu'être branché sur un respirateur, c'est encore moins confortable de porter un masque. Mais bon, deux, sur son il parle de son inconfort personnel, que lui, il n'aime pas ça, puis ça lui fait du bien de l'enlever. Il y a un paquet de professionnels de la santé, il est médecin, Dr Arruda, là, qui porte ça pendant une journée complète, puis qui s'en accommode très bien. Le masque est porté en classe en Ontario, en Alberta, présentement là, dans les grandes villes, dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie, puis parfois dès la maternelle. C'est que ça, c'est une autre partie du problème, c'est-à-dire que manifestement, il y a moyen que ça fonctionne assez bien. Puis évidemment, il y a un paquet de travailleurs qui le portent à longueur de journée, là, en raison du lieu où est-ce qu'ils travaillent. La troisième, là, c'est que il parle des rassemblements extérieurs. Hein? Il dit que c'est là le gros danger. Et là, le problème, c'est que 6 mois dans la pandémie, le directeur de la santé publique sans même pas être au fait des modes de transmission du virus, ni être cohérent avec les critères de son propre gouvernement. On a entendu le premier
ministre. Parce que quand tu dis ça, Patrick, c'est parce qu'à l'extérieur, généralement, les risques sont beaucoup moins grands qu'à l'intérieur.
C'est exactement ça. D'ailleurs, toutes les mesures qui ont été prises, qui vont entrer en vigueur, en fait, demain à minuit, là, ça vise essentiellement à éviter les contacts de plus de 10 minutes à l'intérieur. Là. C'est ça le sens, c'est ça ce que le premier ministre a expliqué. Si des élèves se croisent dehors, où est-ce qu'il y a un mouvement d'air? Là, on n'est pas dans la même situation. D'ailleurs, là, tu sais, on l'a vu, là, tu sais, j'ai une question que je poserai au Dr Arruda, là. Des cas de contamination dans des événements extérieurs au Québec, là, que ce soit dans des manifestations ou au tam-tam du Mont-Royal, il y en a combien? Tu sais, c'est marginal s'il y en a. On veut garder les écoles ouvertes, c'est correct, mais qu'on arrête de se baser sur la pensée magique. T'sais, on a une très forte transmission communautaire. Les cas peuvent partir de la maison pour aller à l'école.
Merci.
D'accord.